Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'ULB. Vous écoutez Histoire de savoir, l'émission qui vous éclaire sur les phénomènes scientifiques. Je suis Ajar Messaoudi et je présenterai cette émission accompagnée de Salomé.
Bonjour, bonjour.
Sur la compréhension de la fonte de l'Antarctique.
Quand on pense à l'Antarctique, on imagine souvent un monde lointain, recouvert de glace, presque figé. Et pourtant, ce qui s'y passe aujourd'hui est loin d'être anodin. La fonte de la calotte antarctique pourrait jouer un rôle majeur dans le fonctionnement des océans, et donc dans le climat à l'échelle mondiale. Une récente étude montre que le mécanisme a déjà influencé le climat de la Terre dans le passé. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement sous cette immense couche de glace, et surtout, en quoi ce nous concerne directement ?
Pourquoi la fonte de l'Antarctique nous parle tous ici et maintenant ? Quand on pense à l'Antarctique, on imagine souvent un immense désert blanc, figé, presque immobile, un endroit lointain, déconnecté de notre quotidien. Et pourtant, ce qui s'y passe aujourd'hui nous concerne directement. Car l'Antarctique n'est pas seulement un bloc de glace posé au bout du monde, c'est une pièce essentielle du système climatique terrestre, un peu comme un régulateur invisible qui aide la planète à maintenir son équilibre. Alors que se passe-t-il exactement ? Avec le réchauffement climatique, la calotte antarctique fond. Cette fonte libère de grandes quantités d'eau douce dans l'océan austral, l'océan qui entoure le continent. Et cette eau douce, plus légère que l'eau salée, reste en surface. Résultat, l'océan se met en couches. On appelle ça la stratification. Dit comme ça, ça paraît technique, mais en réalité, c'est assez simple. Imaginez un verre dans lequel vous versez de l'eau et de l'huile. Les deux ne se mélangent pas vraiment. Dans l'océan, c'est un peu le même principe. Et ce phénomène a des conséquences majeures. Normalement, l'océan fonctionne comme une immense machine. Il mélange les eaux, transporte la chaleur, et surtout, il absorbe une grande partie du dioxyde de carbone que nous émettons. En fait, l'océan est l'un des principaux alliés contre le réchauffement climatique. Mais quand il se stratifie, cette machine ralentit. Les échanges entre la surface et les profondeurs deviennent plus difficiles. Et là, tout se complique. Car si les eaux profondes remontent moins, l'océan peut moins bien jouer son rôle de régulateur. Il absorbe moins bien de chaleur, moins de CO2, et une partie de ce carbone peut même être relâchée dans l'atmosphère. Autrement dit, ce qui se passe en Antarctique peut influencer le climat à l'échelle mondiale. Mais il y a aussi une nuance importante. Les scientifiques ont observé que même lorsque l'océan devient plus stratifié, certains mécanismes continuent de fonctionner. Les vents, notamment, permettent encore à des eaux profondes de remonter et de maintenir des échanges avec l'atmosphère. Ce qui veut dire que le système ne s'arrête pas complètement. Il s'adapte, mais jusqu'à quand ? C'est toute la question. Car contrairement aux déglaciations naturelles du passé qui se déroulaient sur des milliers d'années, le réchauffement actuel est extrêmement rapide. Et cette rapidité pourrait pousser le système climatique au-delà de ses capacités d'adaptation. Alors non, l'Antarctique n'est pas si lointain, c'est même l'un des endroits où se joue en partie l'avenir du climat mondial. Et comprendre ce qui s'y passe, c'est déjà commencer à comprendre ce qui nous attend.
Nous avons interviewé François Fripia, chercheur au laboratoire de glaciologie de l'Université libre de Bruxelles. Il est allé plusieurs fois sur le continent antarctique. Pour cette émission, il nous fait part de son expertise sur le sujet.
Ok, mais donc il y a un réchauffement climatique qui est d'origine anthropique, suite à l'émission des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, qui en fait réchauffe la planète, et donc ça a plein de conséquences, notamment sur les régions polaires, dont la calotte polaire antarctique. Et donc comme le climat se réchauffe, elle a tendance à fondre, à perdre de la masse. Et donc c'est un impact que beaucoup de gens ont entendu parler, c'est un impact sur le niveau marin. Mais moi, ce que j'ai regardé plus particulièrement, c'est vraiment l'impact de cette fonte dans le passé sur la circulation océanique.
Concrètement, la fonte des glaces, ça veut dire quoi du coup ?
Alors la fonte des glaces, c'est simplement la glace qui se transforme en eau à cause du réchauffement. Et cette eau douce se déverse ensuite dans les océans, ce qui peut perturber leur fonctionnement et faire monter le niveau de la mer.
Et en quoi la fonte de l'Antarctique en particulier nous touche ? Est-ce que ce phénomène pourrait changer notre quotidien ?
Oui, carrément, mais je vais plutôt donner la parole à Monsieur Fripia qui nous l'explique.
On sait que bon, l'Antarctique, déjà, c'est une masse de glace qui est beaucoup plus grande que le Groenland. Contribution du Groenland au niveau marin, s'ils font complètement, on parle de 7 mètres, alors que l'Antarctique, on parle de 56 mètres, je pense, plus ou moins. Donc c'est clair que le potentiel de l'impact sur le niveau marin est beaucoup plus important. Mais dans le cas qui m'intéresse, moi, c'est que c'est vrai qu'on discute beaucoup dans la littérature scientifique de l'impact de la fonte des calottes polaires dans l'hémisphère nord, dont le Groenland en fait partie, sur la circulation dans l'Atlantique Nord, la circulation qu'on appelle un peu thermohaline, qui est un peu le tapis roulant océanique, qui permet vraiment l'échange entre l'océan profond et l'océan de surface. Et donc, dans la littérature, souvent, on a mentionné qu'une fonte trop importante du Groenland allait arrêter cette circulation dans l'Atlantique Nord, avec des conséquences assez dramatiques sur le climat mondial, mais aussi régional, et notamment en Europe. Mais c'était beaucoup moins étudié l'impact de la fonte en Antarctique sur la circulation océanique. Et dans l'étude que j'ai réalisée, en fait, c'est la première fois qu'on montre que cette fonte de l'Antarctique au cours de la dernière déglaciation a eu un impact sur la circulation océanique.
Mais comment on fait pour retracer l'histoire de ces mécanismes ?
Pour retracer leur histoire, les scientifiques ont analysé des carottes de sédiments prélevées au fond de l'océan Austral. Tu vois, ces échantillons du fond des océans qui permettent d'étudier le climat passé. Mmh. Ils ont notamment étudié la composition isotopique de la matière organique piégée dans les coquilles de diatomées. Ce sont de minuscules algues marines très abondantes dans ces régions. L'objectif était de reconstituer les conditions océaniques passées.
La calotte polaire antarctique fond par le dessous, par ses marges. En fait, c'est vraiment, c'est pas de la fonte qui a lieu à la surface de l'Antarctique. Elle a lieu principalement là où la calotte polaire rencontre l'océan, par le vélage des icebergs et aussi par la fonte basale qui a lieu quand la calotte est en contact de l'océan. Mais donc, c'est un flux très important. Après, je ne peux pas vous donner un chiffre comme ça.
Revenons à présent sur le rôle de l'océan.
C'est ça. Et donc l'océan Austral, c'est vraiment un océan qui est hyper important pour la machine climatique globale. Car si on regarde un peu une carte, en fait, c'est un peu le rond-point de la circulation océanique. C'est le seul océan qui permet la connexion entre le bassin Atlantique, Pacifique et Indien. Donc il permet vraiment la connexion des eaux entre les différents bassins océaniques. Et c'est extrêmement important aussi comme zone, parce que c'est la seule zone au monde où l'océan profond, entre 2000 mètres, revient en surface et peut être échangé avec l'atmosphère. Et c'est extrêmement important qu'on réfléchisse un peu au réservoir de chaleur qui est énorme, qui est l'océan profond, et aussi le réservoir de CO2. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 100 fois plus de CO2 dans l'océan profond que dans l'atmosphère. Et donc, si on échange, si on altère cet échange entre l'océan profond et la surface et l'atmosphère, on va avoir un impact sur la concentration en CO2, et donc l'effet de serre et donc le climat.
L'océan Austral est donc très important. Il occupe une place centrale dans le système climatique mondial. Véritable carrefour de la circulation océanique, il relie les océans Atlantique, Indien et Pacifique. Il constitue aussi le principal point d'échange entre l'atmosphère et l'océan profond, un réservoir gigantesque qui stocke environ 100 fois plus de dioxyde de carbone que l'atmosphère.
Ben, donc, comme je l'ai dit un peu, j'ai parlé plutôt des aspects peut-être océanographiques pour commencer, et peut-être pour les aspects un peu plus glaciologiques par la suite. C'est que donc on sait que l'océan Austral, comme je vous l'ai dit, joue un rôle capital pour les échanges entre l'océan profond et la surface, et ça a un rôle énorme sur la capacité de l'océan à absorber l'excès de chaleur qui a été produit par les activités humaines, et aussi le CO2 qui a été émis par les activités humaines. Et on sait qu'actuellement, l'océan a absorbé plus de 90% de la chaleur qui a été produite par les activités humaines, et juste à 30% du CO2 qui a été émis par l'activité humaine. Et donc, il a eu un rôle d'atténuation très fort des changements climatiques qu'on est en train d'observer. Et donc, il nous aide beaucoup. Et donc, c'est clair que maintenant, la grande question, c'est de savoir est-ce qu'il va continuer à jouer ce rôle. Après, c'est clair que la circulation océanique est hyper importante pour rediriger un peu la chaleur à différents endroits du monde. Tout comme la circulation atmosphérique, bien sûr. Et par rapport à l'impact de la calotte, de la fonte de la calotte polaire antarctique, mais c'est clair que c'est un impact directement sur le niveau marin, qui a un impact global. Donc je dirais que c'est ça, c'est à la fois sur le CO2, la chaleur, le CO2 dans l'atmosphère, qui a un impact sur la température mondiale, et à la fois sur le niveau marin avec la fonte de la calotte polaire antarctique.
Du coup, les échanges entre atmosphère et océan profond dépendent en grande partie de la stratification de l'océan, c'est-à-dire la manière dont les masses d'eau s'organisent en couches plus ou moins bien mélangées. On peut comparer l'océan à une immense machine qui redistribue la chaleur et le carbone à l'échelle planétaire. Lorsque cette machine se stratifie, son fonctionnement ralentit, avec des conséquences directes sur le climat.
Et c'est clair que là, l'impact de l'Antarctique sur l'océan austral a plus ou moins la même implication, si vous voulez. C'est clair que la fonte antarctique, comme je vous ai dit, elle va stratifier l'océan proche de l'Antarctique. Mais en même temps, elle va augmenter la circulation plus au nord. Et donc, c'est très compliqué parce que, voilà, il y a plusieurs composantes. Et donc, il n'y a jamais une seule réponse. Un changement dans le système va induire une répercussion dans l'entièreté des autres composantes du système.
Mais donc, c'est ça. Donc, on a vu que lors de la déglaciation, qui est une dernière époque de réchauffement qu'on a eue, hein, donc la déglaciation s'est passée il y a 20 000 ans, elle s'est arrêtée il y a 10 000 ans. Le climat sur Terre s'est réchauffé en moyenne de 6 degrés. Et au début de cette déglaciation, on a vu que la fonte de la calotte polaire antarctique était suffisante pour avoir un flux d'eau douce autour de l'Antarctique, et ça a stratifié l'océan qui est autour de l'Antarctique. Et donc, ça a augmenté la stratification. Donc, ça a diminué, si vous voulez, les échanges entre l'océan profond et la surface. Mais évidemment, c'est toujours un peu plus compliqué que ça. C'est vrai que si on regarde au large de l'Antarctique, il y a une stratification. Mais le même apport d'eau douce a fait qu'un peu plus au nord, il a permis aux eaux profondes qui sont denses de revenir en surface beaucoup plus rapidement, en fait. Parce que si on amène de l'eau douce, on va convertir ces eaux denses en eau légère de surface beaucoup plus rapidement. Et donc ça a à la fois stratifié les eaux proches de l'Antarctique, mais ça a augmenté l'échange avec l'océan profond plus au nord, proche du front polaire.
Finalement, ça correspond à quoi les périodes de déglaciation et de glaciation ?
Je t'explique ça tout de suite. Alors, au cours de ces 3 derniers millions d'années, le climat de la Terre a alterné entre de longues périodes de glaciation, durant lesquelles d'immenses calottes polaires ont recouvert une grande partie de l'hémisphère nord, jusque le continent européen, et des phases plus chaudes, appelées déglaciations, marquées par leur disparition progressive. Aujourd'hui, seule la calotte polaire du Groenland subsiste dans l'hémisphère nord.
Bah, c'est une autre question, du coup, parce que les glaciations, elles ont lieu sur des échelles de temps beaucoup plus longues. La périodicité de ces glaciers interglaciaires, c'est 100 000 ans. Donc là, on parle de quelques centaines d'années. Une déglaciation, c'est 10 000 ans. Mais donc, c'est clair que si on augmente la concentration en CO2 dans l'atmosphère, on va arriver à des conditions climatiques qui sont inégalées depuis les derniers millions d'années. Et donc, c'est clair que la probabilité de retourner en glaciation diminue. Donc c'est clair que si le réchauffement continue, on ne va pas retourner en période de glaciaire.
Mais c'est quoi cette grande différence entre les déglaciations naturelles du passé et ce que nous vivons aujourd'hui avec le réchauffement climatique qui est d'origine humaine ?
Eh bien, dans le passé, les déglaciations étaient dues à des phénomènes naturels comme les variations de l'orbite de la Terre. Ça se faisait très lentement, sur des milliers d'années, donc le climat avait le temps de s'adapter et de rester globalement stable. Aujourd'hui, c'est différent. Le réchauffement est surtout causé par les activités humaines, notamment les gaz à effet de serre. Il se produit beaucoup plus vite et en quelques décennies seulement. Du coup, les océans et le climat n'ont pas le temps de s'ajuster, ce qui peut provoquer des déséquilibres plus importants. Mais la calotte ne va pas fondre complètement. François Fripia explique qu'il est censé y avoir un effet stabilisateur.
Ben après, c'est ça, donc c'est la hausse du niveau marin, ça c'est clair, ça va impacter ça. Et puis après, il y a l'impact sur la circulation océanique. Après, elle ne va pas fondre complètement. Après, je pense qu'à un moment donné, il va quand même avoir un effet stabilisateur en fonction de comment le climat va évoluer. Parce qu'il y aura un moment où il se réchauffe pour l'instant, mais il ne va pas toujours se réchauffer. À un moment donné, il va y avoir des fluctuations. Donc ça... Et ce sera la grande question, c'est jusqu'où on va arriver et quel est le point d'équilibre en fait. Il n'y aura jamais un moment donné, je pense, dans les centaines d'années, c'est clair, mais dans les milliers d'années, où il n'y aura plus de glace du tout, au Groenland ou en Antarctique.
Et d'ailleurs, en Antarctique, on peut avoir quelques surprises. Il arrive parfois que certaines espèces viennent vous rendre une toute petite visite.
Une fois qu'on était en train d'échantillonner la banquise au large de l'Antarctique, il y a un groupe de pingouins empereurs qui est venu nous voir. Et ce qui est très marrant en Antarctique, c'est qu'en fait, il y a les animaux qui sont à la surface, donc les pingouins et les phoques principalement, hein, il n'y a pas beaucoup d'autres animaux. Ils n'ont pas de prédateurs sur Terre, et donc ils n'ont pas peur de nous, en fait. Et donc ils sont très curieux, et ils viennent nous voir, en fait. Donc ils étaient vraiment à quelques mètres de nous. Donc c'était un moment assez...
assez incroyable de vivre ça. Et donc la fin de cette année-ci, par contre, je vais retourner en Antarctique, donc je suis très content.
La fonte de la calotte polaire peut également jouer sur le niveau de la mer.
Mais donc oui, c'est clair que la fonte antarctique, comme je vous l'ai dit précédemment, si elle fond complètement, on parle de 50-60 mètres de niveau marin directement. Bien sûr, elle ne va pas fondre en un jour. Ça prend des... Après, évidemment, évidemment, ça va dépendre un peu de l'évolution du climat, mais ça prend des milliers et des milliers d'années pour réagir au changement climatique. Donc, c'est un temps de réponse extrêmement lent. On sait que pour l'instant, l'Antarctique n'est pas le contributeur principal à la hausse du niveau marin. Mais ça, c'est assez clair dans toute la communauté scientifique, c'est que dans les siècles qui vont venir, dans le siècle qui va venir et les siècles qui vont venir par la suite, l'Antarctique va devenir le contributeur principal. Après les glaciers, après l'expansion thermique et ainsi de suite. C'est que pour l'instant, c'est principalement la fonte des glaciers, l'expansion thermique et la fonte du Groenland qui contribuent au niveau marin, mais par la suite, de plus en plus, l'Antarctique va dominer.
On a demandé à notre glaciologue s'il y avait un point de basculement à éviter, et voici ce qu'il nous a répondu.
Il y a des études qui montrent que oui, effectivement, on est proche d'un point de basculement dans cette circulation océanique. Il y a d'autres études qui disent que c'est plus récente, qui disent qu'on ne va pas l'atteindre. La probabilité qu'on atteigne ce point de basculement, est relativement faible. Par rapport à la fonte de l'Antarctique ou du Groenland, je pense que c'est déjà irréversible. C'est clair que le changement qu'on a induit va avoir des répercussions sur des centaines d'années qui vont suivre. Parce qu'il y a un temps de réponse tellement lent qu'elle va répondre à ce changement climatique qui a eu lieu au siècle passé, et ça va prendre du temps, quoi. Non, parce que c'est très clair, depuis les années 90, on est très clair. Après, l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, elle est d'origine anthropique. Le réchauffement est lié à cette augmentation de CO2. En tout cas, à l'échelle de temps humaine, c'est clair que dans des centaines de millions d'années, la Terre aura redistribué le CO2 qui a été émis dans l'atmosphère sur différents réservoirs. Et on aura atteint un nouvel équilibre, donc ça n'aura pas d'impact. Mais sur l'échelle humaine ou les siècles à venir, non, il n'y a rien. Je veux dire, la nature ne peut pas absorber ça. Si on ne fait rien, il y aura un réchauffement climatique comme ça a été prédit. Et c'est marrant, depuis les années 90, on fait des projections et on est toujours dans... les calculs sont justes, quoi. L'augmentation de température, elle est reproduite dans les modèles climatiques.
Donc, si on ne fait rien pour réduire nos émissions, le mécanisme naturel qui redistribue la chaleur et le carbone ne pourrait pas continuer à nous sauver.
Notre audience n'en est peut-être même pas au courant, car la réponse de la société face à ce phénomène n'a toujours pas évolué. François Fripia nous a fait part de ses inquiétudes par rapport à cela.
Après, ce qui me choque le plus, moi, mais ce n'est pas vraiment lié à ma recherche, c'est qu'en fin de compte, l'opinion publique ne change pas, n'évolue pas trop, en fait. C'est qu'en fait, la réponse sociétale au changement climatique, elle est quasi minime, en fait. On fait des progrès, on fait des changements, on utilise plus d'énergie renouvelable. Mais il y a toujours cette espèce de création de doute sur les climato-sceptiques. Moi, ça m'alarme vraiment, ça me choque. Parce que franchement, quand on regarde, je trouve que la communication des scientifiques par rapport à ce problème, elle est hyper claire et elle a été mise en place depuis hyper longtemps. En fait, depuis les années 90, on dit la même chose et notre discours s'affine et nos calculs s'affinent et pointent vers le même problème. Quand on regarde les rapports du GIEC, qui est donc le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat, qui publie un rapport tous les 5-6 ans sur l'état du climat, si on regarde les conclusions, elles sont toujours les mêmes. Après, on affine notre compréhension et ainsi de suite. On devient de plus en plus certain de nos arguments, mais les arguments sont exactement les mêmes. Et c'est ça qui me choque vraiment, c'est que malgré ça, malgré qu'il y a une communication, un consensus scientifique qui est mondial, qui est hyper clair, il n'y a rien qui change, en fait.
Tu sais, Salomé, il y aurait même un effet inverse qui fait qu'on alerte de moins en moins. Dans le dernier accord gouvernemental, on ne parlait pas du tout de changement climatique.
Je me demande s'il y a encore des raisons de rester optimiste. En tout cas, selon notre glaciologue, ça n'a pas l'air d'aller dans le bon sens.
Je suis un grand optimiste de nature, donc oui, j'ai envie d'y croire. Après, j'avoue, j'ai quand même un... Voilà, quand je vois ce qui se passe actuellement, j'ai l'impression qu'on ne va pas dans le bon sens. Et je pense que ça va durer encore quelques années...
On a également demandé à M. Fripia quel rôle joue l'océan dans la lutte contre le réchauffement.
Et donc oui, donc il a un rôle énorme. Donc vraiment, l'océan, comme j'ai dit au début, il a absorbé plus de 90% de l'excès de chaleur qui était produit par les activités anthropiques. Donc là, on parle d'un réchauffement de 1 degré en un siècle, ou on parle peut-être, maintenant on arrive à 1,4, je pense, degré depuis l'époque pré-industrielle. Mais s'il n'y avait pas l'océan qui avait absorbé une partie de la chaleur, l'augmentation de température était beaucoup plus importante. La grande partie de la chaleur, 90% de la chaleur, était absorbée par l'océan. Donc ça, c'est l'impact sur la chaleur, l'excès de chaleur anthropique, mais aussi sur le CO2. Donc le réchauffement actuel est dû à la concentration de CO2 qui augmente dans l'atmosphère. Mais sans l'océan, l'augmentation aurait été beaucoup plus importante, parce qu'il a absorbé une partie, jusqu'à 30% des émissions de CO2. Donc oui, donc c'est clair que simplement dû à ce rôle-là, l'océan a un impact énorme sur le climat. Il a un rôle vraiment qui atténue les changements climatiques. Mais c'est clair que tout ce qui est circulation océanique, le Gulf Stream, la circulation thermohaline, donc le tapis roulant, comment elle va évoluer et comment elle va changer, va impacter la redistribution de la chaleur sur Terre, et donc va impacter comment le climat va évoluer de manière régionale à différents endroits. Oui.
Pour mieux comprendre le contexte, le Gulf Stream, c'est un grand courant d'eau chaude qui part des zones tropicales et remonte vers l'Europe, ce qui aide à adoucir notre climat. Il fait partie de la circulation thermohaline, un vaste système de courants océaniques basé sur la température et la salinité. L'eau chaude circule en surface, puis en se refroidissant, elle plonge et circule en profondeur. C'est un peu comme un tapis roulant géant qui redistribue la chaleur sur toute la planète. L'activité humaine impacte également l'océan, notamment sur les écosystèmes marins. Par contre, cette activité n'agit pas directement sur le bilan de masse, c'est-à-dire la manière dont la calotte antarctique va perdre ou gagner de la masse, car tout se passe en surface pour l'instant.
Après, je pense qu'après, toutes les échelles sont importantes, mais je pense qu'il faut une volonté politique derrière. Et si tu veux vraiment faire un changement à l'échelle mondiale, comme tout était connecté, interconnecté, c'est clair que si la première puissance mondiale qui pollue le plus par capita décide d'en avoir rien à foutre, c'est clair que ça va avoir un impact et que ça va pas être dans le bon sens. Il faut avoir une volonté politique globale pour avoir un changement. Après, je reste positif dans le sens où je pense qu'on est dans une période charnière où on peut vraiment encore changer les choses. Après, c'est clair que je reste pessimiste dans le sens que la tournure des événements actuellement, on a perdu plusieurs dizaines, enfin, on a perdu plusieurs décennies de combat climatique, je pense, avec ce qui se passe actuellement, les guerres, Trump au pouvoir, ainsi de suite. Donc, je suis assez pessimiste, mais j'ai envie de rester optimiste en soi et penser que c'est encore possible. Et je pense que c'est important que, et toutes les projections le montrent, c'est clair que maintenant, c'est le point où il faut agir, quoi. Si on n'agit pas, si on agit maintenant, on peut encore avoir un impact. Dans 20, 30 ans, ce sera plus si facile. Donc, il faut réagir, ouais.
Et justement, il resterait une petite fenêtre d'ouverture vers l'océan profond qui lui permettrait de continuer d'absorber l'excès de chaleur.
C'est la fenêtre vers l'océan profond. Donc en gros, là, ça revient un peu à ce que j'ai discuté par rapport aux échanges de CO2. Donc l'océan profond, c'est vraiment le plus grand réservoir qui peut échanger avec l'atmosphère de CO2 sur des échelles de temps qui nous intéressent. En gros, ce qu'on nous on montre, c'est que quand on a un réchauffement, l'océan continue à échanger le CO2 et même cette capacité d'échange augmente. Et donc ça veut dire qu'avec le réchauffement actuel, on peut faire une analogie, que ce taux d'échange entre l'atmosphère et l'océan profond va rester du moins constant ou s'amplifier. Et donc ça veut dire que cette capacité d'absorption de l'océan du CO2 par l'océan, va continuer à être présente et voire à augmenter. Et donc, le rôle d'atténuation qu'a l'océan actuellement, notre étude montre que c'est vraisemblable que ça va continuer. Donc, c'est ça, cette fenêtre. Ce n'est pas une fenêtre d'opportunité, c'est plutôt une fenêtre. La fenêtre vers l'océan profond va rester ouverte. Donc, c'est ça. Et donc, l'océan va continuer à absorber l'excès de chaleur et continuer à échanger du CO2 avec l'atmosphère, et donc absorber du CO2 dans l'océan profond avec un réchauffement.
Vous le savez peut-être déjà, mais dans le domaine scientifique, les consensus sont plutôt rares. Le GIEC, un groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, est un organisme chargé d'évaluer l'ampleur, les causes et les conséquences du changement climatique en cours. Mais pour que tout le monde s'accorde, ce n'est pas toujours facile.
Bon, après, la science, c'est toujours un débat, hein, donc c'est logique. Après, mon étude, elle vient d'être publiée. Donc c'est clair que... et surtout, c'est la paléoclimatologie. Donc la paléoclimatologie, c'est une science assez jeune. Hein, et c'est pas facile, parce que bon, après, l'idée, c'est quand même, on travaille sur des périodes de temps, comment la Terre était il y a 20 000 ans, 100 000 ans, 1 million d'années. Il n'y avait pas de thermomètre, il n'y avait pas de station météo. Donc on se base sur des méthodes indirectes pour inférer des processus. Et c'est clair qu'il y a beaucoup de questions. Ça reste toujours ouvert. Mais c'est important de faire un consensus de la communauté scientifique, des études qui sont données par la communauté scientifique pour faire passer ce message. Après, par rapport au GIEC, qui est quand même un travail titanesque, où en fait, on compile 6 années de recherche et on essaie de trouver un consensus par rapport au changement climatique, il faut savoir que le GIEC, il est assez conservatif. Dans le sens que ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il va prendre en compte seulement ce qu'on connaît, on est vraiment très sûr. Tout ce qu'on n'est pas trop sûr, il va en discuter, mais ça va rester à la marge. Et en fait, quand on réfléchit au réchauffement et à tous les effets d'emballement possibles ou tous les effets de basculement possibles, les projections du GIEC sur le niveau marin ou sur la température sont assez conservatives. On dit que ça va augmenter de quelques degrés à la fin du siècle. Mais il y a plusieurs effets d'emballement qui ne sont pas pris en compte dans le rapport, qui peuvent impliquer une beaucoup plus grande augmentation de température. Par rapport au niveau marin, on parle, bon, après je donne des chiffres, je sais pas, moi je travaille plutôt sur le passé et apparemment sur le futur, mais de 40 cm à 120 cm de niveau marin à la fin du siècle, mais ça c'est extrêmement conservatif. C'est qu'évidemment il y a plein de processus qu'on commence à découvrir qui peuvent avoir un effet d'emballement et amplifier cette augmentation, qui ne sont pas pris en compte encore dans le rapport du GIEC. Et donc, l'étude que j'ai publiée, elle vient d'être publiée. Voilà, il faut qu'elle soit discutée dans la littérature. Il va y avoir des mesures, des études contradictoires peut-être. Surtout qu'en paléoclimatologie, voilà, c'est plus propice à ça, parce que c'est plus difficile, je veux dire, de contraindre. Je veux dire, souvent, ce que je dis, moi, c'est ça. À un moment, c'était la première étude qui étudie l'océan il y a 500 millions d'années. Tu peux dire un peu tout ce que tu veux, en fait. C'est seulement après plein d'études différentes et de consensus et de convergence entre différentes observations que tu peux commencer vraiment un argument très fort. Par rapport au cycle glaciaire-interglaciaire, on connaît beaucoup plus. Donc on n'est pas dans le cas de figure de 500 millions d'années ou 1 milliard d'années ou 3 milliards d'années. Et puis même, les études commencent à augmenter de plus en plus pour ces échelles de temps-là. Après, il faut être honnête, je peux me tromper. Peut-être qu'on s'est trompé. Ce n'est pas une fin en soi. Moi, c'est que mon étude continue à travailler dessus. J'ai des étudiants qui travaillent sur d'autres enregistrements et on va essayer de répliquer nos résultats pour voir s'ils sont reproductibles à d'autres endroits et qu'ils sont en cohérence avec nos enregistrements. Et d'autres personnes le font aussi, donc voilà. Yo, VIP. Is back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly, flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow to the extreme. I rock a mic like a vandal, light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, crush a speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly when I play a dope melody. Anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit bullseye, the kid don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. A cymbal and a hi-hat with
bowl. I'm on a roll, it's time to go solo. Rollin', hit my 5.0, put my rag top down so my hair can blow. The girl is on standby, waiting just to say hi.
Did you stop?
No, I just drove by, kept on pursuing to the next stop. I bust a left and I'm heading to the next block. The block was dead, yo, so I continue to A1A.
Beachfront Avenue.
Girls were hot, wearing less than bikinis. Rock men love us, driving Lamborghinis.
Jealous,
cause I'm out getting mine. Shade with the gauge and vanilla with the nine. Ready for the chumps on the wall. The chumps acting ill because they're full of eight ball. Gunshots ranged out like a bell. I grabbed my nine, all I heard was shells. Falling on the concrete real fast. Jumped in my car, slammed on the gas. Bumper to bumper, the avenue's packed. I'm trying to get away before the jack is jacked.
Police on the scene,
you know what I mean? They passed me up, could run it all the dope fiends. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. Check out the hook while DJ revolves it. Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
Quand on parle de réchauffement climatique, de fonte des glaces ou de perturbation des océans, on a parfois tendance à imaginer des scénarios assez catastrophiques. Et forcément, ça nous fait penser à certains films, comme par exemple Le Jour d'après. Vous savez, ce film où en quelques jours, tout bascule, tempête géante, vent de froid extrême et une planète totalement bouleversée. Alors forcément, on pourrait se dire, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui en Antarctique? C'est le début de ce genre de scénario. Bon, on va se rassurer, dans la réalité, les choses ne se passent pas comme dans un film. Les changements climatiques, même s'ils sont bien réels, sont plus progressifs. Et donc non, on ne va pas se réveiller demain avec une nouvelle ère glaciaire en plein milieu de l'Europe. Mais attention, ça ne veut pas dire que ce n'est pas sérieux, parce que ce qui se passe en Antarctique avec la fonte des glaces et la modification de la circulation des océans, c'est un peu comme dérégler une machine très complexe. Pas de catastrophe instantanée, mais des effets qui s'accumulent petit à petit. Des océans qui absorbent moins bien la chaleur, des équilibres qui changent, des climats de plus en plus instables. Et ça, c'est moins spectaculaire qu'un film, mais tout aussi important. En fait, la grande différence entre la fiction et la réalité, c'est le rythme. Dans les films, tout va très vite, c'est assez impressionnant. Dans la vraie vie, c'est un peu plus lent, plus délicat, mais les conséquences peuvent être durables. Alors non, on n'est pas dans le jour d'après, mais comprendre ce qui se passe aujourd'hui, c'est peut-être justement éviter que la fiction se rapproche un peu trop de la réalité. Quand on parle de réchauffement climatique et de fonte des glaces, on pense souvent à beaucoup de films catastrophes.
Oui, un peu comme Le jour d'après finalement, où tout bascule en quelques jours.
Exactement, des tempêtes géantes, une chute brutale de température, tout s'était vraiment emballé très vite.
Du coup, on pourrait se demander, est-ce que ce qui se passe aujourd'hui en Antarctique, ça ressemble à ça ?
Pas vraiment, je te dirais. Enfin, heureusement, la réalité est moins spectaculaire.
Mais du coup, est-ce que ça veut dire que ce n'est pas grave ?
Pas tout à fait. C'est tout le contraire en réalité. Ce qui se passe est plus lent et aussi plus discret.
Et surtout, ça agit en profondeur.
Exactement, c'est ça. Par exemple, la fonte des glaces modifie la façon dont les océans fonctionnent. Ils se mélangent beaucoup moins, ils absorbent moins bien la chaleur et le dioxyde de carbone.
Donc ce n'est pas une catastrophe immédiate, mais plutôt un déséquilibre progressif.
Oui, c'est ça. C'est comme une machine qui continue de tourner, mais beaucoup moins bien et plus lentement.
Et ça, on le ressent déjà aujourd'hui ?
Oui, à travers des changements climatiques, des phénomènes plus extrêmes et des saisons très, très imprévisibles.
Donc en résumé, la différence avec les films, c'est surtout le rythme.
Oui, c'est ça. Dans les films, tout va très vite, c'est très accéléré. Dans la réalité, c'est plus lent, mais ça peut durer plus longtemps.
Donc on n'est pas dans le jour d'après.
Mais ça peut quand même... il faut quand même prendre la peine de comprendre ce qui se passe pour éviter d'en arriver là.
Et voilà, notre émission consacrée à l'Antarctique touche déjà à sa fin, un thème à la fois complexe, captivant, parfois préoccupant, mais surtout plus que jamais d'actualité. Tout au long de cette émission, nous avons navigué entre passé et présent, en mêlant explications scientifiques et anecdotes étonnantes. Nous avons essayé de mieux comprendre les mécanismes de la fonte des glaces, les débats qu'elle suscite, ainsi que ses implications concrètes.
Loin d'être un simple désert glacé, l'Antarctique apparaît ainsi comme l'un des chefs d'orchestre invisibles du système climatique terrestre. Comprendre ces mécanismes, c'est mieux anticiper l'avenir planétaire. Entre ceux qui s'en inquiètent fortement et ceux qui relativisent son impact, une certitude demeure, le sujet continue de faire débat. Mais au-delà des connaissances scientifiques, s'intéresser à la fonte de l'Antarctique, c'est aussi chercher à mieux comprendre les équilibres de notre planète.
Merci de nous avoir écoutés et un grand merci également à notre invité pour ses éclairages précieux. On espère vous avoir fait au mieux comprendre un phénomène complexe. Très belle journée à toutes et à tous et à très bientôt sur Radio Campus.
If you go to the war, promise that you will make sure that they will let me come with you to the first frontier. If you leave me at home and take half of my soul, I love you too much to miss you alone. Sham sham shara, 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 sham sham shara. If you take that train that they painted gray, you'll never return as the one that I am. All the things that you see and the pain that you'll feel will rip you away from from me, you'll never return. Sham sham shara, 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 sham sham shara. To the war, promise that you will make sure that they will let me come with you to the first frontier. If you leave me at home and take half of my soul, I love you too much to miss you alone. Sham sham shara, 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 sham sham shara.